Ce fut un instant mémorable. L'émotion me faisait trembler, ou peut-être était-ce le froid, les habits trempés qui me collaient à la peau. Je pris le grimoire et solennellement le déposai au pied du trésor. Personne désormais ne pourrait plus retrouver le dédale qui menait au secret des chevaliers de Saint-Elme. Cartes et plans du souterrain, tout resterait à jamais enfoui avec le trésor. Mon père avait raison, décidément je faisais tout à l'envers. Moi qui rêvais d'être archéologue, je venais d'aider 7 fantômes à cacher à jamais une trouvaille historique de première importance. Mais tout valait mieux que l'avoir tombé entre les mains avides de M. Fogelmann et de son associé. Soudain, une explosion d'une terrible violence ébranla toute la salle, nous couvrant d'une pluie de poussière et de gravats. « Le souterrain !» hurla Camille. « Tout va s'effondrer !» La terre craquait autour de nous, fissurant les murs de longues lézardes. La catastrophe redoutée par le professeur Timéus était en train de se produire. Ravinés par les pluies, les souterrains de la forteresse n'avaient pas résisté à la dernière explosion. « Fuyez !» ordonna Brunswick. « L'escalier dérobé là-bas conduit au pied de la montagne. Les chevaliers s'en servaient pour quitter secrètement la forteresse. « Non !» cria Camille. « Mon père est en danger. Il faut que je remonte. » « Tu ne passeras jamais, » protestai-je. « C'est de la folie. Ils s'échapperont par le téléphérique. »« Impossible !» coupa Camille. « Larson est descendu ce soir à Gluck par la cabine. Ils sont prisonniers là-haut. » J'essayai de la retenir, mais elle m'échappa encore, fuyante comme une anguille. « C'est mon père !» lança-t-elle avant de plonger. « Je dois l'aider !» Déjà, elle avait disparu sous les eaux, au milieu d'une grêle de pierrailles. Un instant, je vis la tache de son ciré qui luttait contre le courant, puis tout se brouilla. « File pendant qu'il est encore temps !» m'ordonna Brunswick. « Et vous, sanglotai-je ? Rien à craindre. Adieu, Sébastien. Nous nous reverrons certainement un jour. » Planté sur place, j'étais incapable d'un mouvement. Je regardais le noir où Camille avait disparu, mes compagnons affolés qui s'égayaient en tous sens comme des vers luisants, paralysés de peur et ne sachant qui suivre. « Sébastien ! Hurla Brunswick. Le temps presse !» J'attrapai mon sac et, comme un somnambule ivre de chagrin, me jetai dans l'escalier. Juste à temps. À l'instant où je me retournais, la voûte céda, engloutissant la salle sous un déluge de rocailles. C'est à peine si je les aperçus serrés les uns contre les autres, le chat juché sur l'épaule de Brunswick, qui agitait la main vers moi avant de disparaître. Je ne sais comment je regagnais la vallée. Autour de moi, la montagne grondait, secouée de spasmes comme un géant. Je descendais toujours, tâtonnant le long des parois, les mains écorchées, poursuivi par l'écho du tremblement de terre. Une lueur se profila au loin, une ouverture basse, semblable à celle d'une grotte masquée par un buisson d'épines. Quand je surgis à l'air libre, j'étais dans la vallée. Au-dessus de ma tête se dressait la masse de la forteresse, juchée sur son piton rocheux. Du moins ce qu'il en restait. La tour du nord s'était effondrée, entraînant avec elle le dernier espoir de Camille. Si par miracle elle avait pu rejoindre son père et le professeur, toute issue lui était désormais coupée. Je restais un long moment, tremblant de froid et de chagrin, à contempler les ruines de la forteresse. Il ne pleuvait plus. Le ciel, maintenant dégagé, rendait plus terrible encore le spectacle de la catastrophe. Le même cataclysme qui avait détruit le bagne de Brunswick venait d'abattre le collège Fogelmann. Au moment où je me résignais à partir, mon cœur fit un bond. Quelque chose bougeait sur le pan de muraille encore intact. « Camille ! » hurlai-je. Mais les petites silhouettes, là-haut, étaient bien trop loin pour m'entendre. 3 minuscules silhouettes humaines gesticulant au bord du vide. Camille, son père et le professeur. Elle avait réussi à les rejoindre. La lune surgit alors de derrière un nuage. Et là, dans le ciel soudain éclairci, je vis se déployer un premier cerf-volant, puis un deuxième et un troisième encore. 3 immenses cerfs-volants qui hésitaient encore, les ailes palpitantes, accrochées à la muraille comme des chauves-souris géantes. Puis chacun à son tour, ils s'élancèrent dans le vide, tombant comme des pierres. Je fermai les yeux. Quand je les rouvris, ils planaient tous les 3 au-dessus des forêts, descendant vers la vallée endormie tel un vol d'oies sauvages. Je poussai un hurlement de joie. Ils étaient sauvés. Utilisant les cerfs-volants comme des deltaplanes, Camille, M. Fogelmann et le professeur Timéus s'enfuyaient par la voie des airs. Bientôt, ils ne furent plus qu'un point minuscule sur l'horizon. L'instant d'après, ils avaient disparu. Je pris mon sac à dos et descendis, l'esprit en paix, vers Gluck et la liberté. 12 octobre. J'achève ici ce journal. À quoi me servirait-il désormais ? J'ai retrouvé mon père, ma mère, une classe de 5e dans un collège ordinaire. Des événements de Gluck, les journaux ont peu parlé, invoquant un simple tremblement de terre. Le phénomène d'Estier s'est déjà produit autrefois. Je me suis bien gardée de dire ce que je savais. Le collège Fogelmann n'existe plus. On montre les ruines aux visiteurs qui passent dans la région. Il paraît que la nuit, des lueurs se promènent sur la muraille d'enceinte. Des feux follets, dit-on. Mais moi, je sais que Brunswick, Bordeaux, Cairns, Hochepaille, Ard, Dieudonné, le Petit Simon et le chat d'Artagnan continuent de veiller sur le trésor enfoui de Chevalier de Saint-Elme. Leur trésor, pour toujours. De Camille, de M. Fogelman et du professeur Timéus, pas de nouvelles. Les après-midi de grand vent, je guette le ciel au-dessus de la maison. Je suis sûre qu'un jour, j'y verrai flotter un grand cerf-volant rouge cerise. Et Camille sera là.